بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاء الإسلام إن شاء الله ce soir va compléter le hadith Jibril, hadith qu'on avait commencé il y a plusieurs mois. Et ce soir, Inch'Allah, on voit le sixième pilier de la foi. Et avec ça, on essaie de développer, Inch'Allah, quelques points concernant le taqdir, mais de façon très concise, très mukhtasar. Et on peut dire qu'on aura vu, on aura passé en revue les six branches de la foi. Et on terminera avec le Ihsan, sachant que c'est le dernier programme de Riyad al-Salihin aussi de cette année. Après, ce sera donc les vacances et on reprendra, Inch'Allah, Azza wa Jal, au mois de février, à la rentrée. Donc, on avait vu en introduction la semaine dernière que parmi les questions que l'ange Jibril alayhi salam avait demandé au prophète alayhi salat wa salam, c'était à propos de la foi. Et lorsque le prophète alayhi salat wa salam a énuméré les six points de la foi, l'ange Jibril alayhi salam a affirmé que le prophète avait dit vrai. Et parmi ces six branches de la foi, le prophète alayhi salat wa salam a cité en sixième position wa an tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi, que le croyant, que chaque musulman croit au destin. Tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, ça fait partie de la décision d'Allah Azza wa Jal. Et la semaine dernière, on avait en introduction expliqué ce que le croyant va obtenir en termes de tranquillité du cœur, tranquillité spirituelle, mais également tranquillité psychologique, lorsqu'il saura vraiment développer la foi sur le destin, sur le taqdir. Parce que ce qui rend notre vie vraiment compliquée, c'est les peurs, les craintes, les appréhensions. On a peur du futur, on a peur de ce qui va devenir de nos revenus, de nos enfants, de leur avenir, de leur futur. On a peur des maladies, on a peur du mauvais regard des gens, on a peur de la sorcellerie, on a peur que quelqu'un nous fasse du mal, et ainsi de suite. Bref, il n'y a rien de plus difficile pour un homme de vivre que de vivre dans la crainte. C'est pour ça que parmi les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal avait accordé aux Quraysh, c'était « wa amanahum min khawf ». Ils n'avaient pas peur. Certes, ils étaient protégés des brigands et ainsi de suite. Mais d'une manière générale, on comprend à travers cela que lorsque la personne vit sans khawf, sans crainte de son cœur, c'est un homme qui a le cœur apaisé. Et quand on a le cœur apaisé, ben on est posé. On peut voir les choses de façon cohérente. On peut organiser sa vie professionnelle, on peut organiser sa vie familiale, on peut faire des projets, mais si à chaque fois on a peur, des gens, on a peur de ce qu'on va dire de nous, on a des craintes, parfois justifiées, parfois injustifiées, ben on ne s'en sort pas. Il y a des fois ces craintes, ça devient tellement envahissant que ça devient des psychoses, ça devient des pathologies. On appelle même ça des problèmes psychiatriques. Il y a des gens qui souffrent de troubles obsessionnels, ils ont peur de tout. Il y en a qui sont hypochondriaques, il y en a qui ont peur des maladies, et ainsi de suite. Il a réalisé zalik. Alors que le mu'min qui croit au taqdir, c'est un musulman qui va vivre avec le cœur apaisé. Ça, c'est une étape. Deuxièmement, vous allez dire que oui, mais il n'y a pas tout le monde qui a peur à chaque fois. Ok. Deuxième avantage du fait de croire au destin, n'importe quel événement de la vie qui va nous arriver, on saura exactement comment les gérer. Et dans le deuxième raka'a de la salat al-isha, on a cité le verset qui cite les différentes épreuves. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, la peur, وَالْجُوعِ, la faim, وَلَنَخْسِ مِنَ الْأَمْوَادِ, quand on perd de l'argent, la perte des biens, وَالْأَنْفُسِ, la perte de personnes, c'est-à-dire le décès de proches. On avait expliqué la dernière fois, quand on perd un proche, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le deuil d'un papa ou d'un grand-père ou d'une épouse ou d'un fils ou d'une fille ou d'un petit-fils qui est décédé. Le prophète alayhi salatu wa salam a fait le deuil de tous les membres de sa famille. On est en train de réécrire encore après-midi le cursus de la madrasa des grands. On est en train de passer en revue, c'est magnifique hein, ce qui a été préparé depuis la classe 7, 8 et 9. On passe en revue depuis l'an 3 de l'Hégire jusqu'au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte combien de personnes le prophète alayhi salatu wa sallam a perdu de son vivant. Avant même sa naissance, il a été éprouvé par la mort. Par la mort de qui? Par la mort de ses parents, c'est pas précis. Avant même sa naissance, il a été éprouvé par la mort de son père, son papa qui s'appelait Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né orphelin. Et c'est difficile ça de naître orphelin. de ne pas avoir de papa, de père sur lequel s'appuyer. Le prophète Ali salat wa salam est encore un enfant lorsqu'il perd maintenant sa maman, alors qu'ils étaient en chemin entre Makkah et Madinah, les endroits qui s'appelaient, comment s'appelait cet endroit, Abua. Et le prophète Ali salat wa salam qui est attaché à sa maman. Une fois, une petite parenthèse, le prophète est en voyage avec les sahaba ridwanullahi alayhi majma'in, et ils sont passés près de cet endroit, Abua. Le prophète Ali salat wa salam s'est arrêté près de la tombe de sa maman. Les hadiths disent « Baka wa abkan nas ». Le prophète s'est mis tellement pleurer que tous les sahaba qui étaient autour de lui se sont mis également pleurer. Les muhaddithines déduisent à travers ce hadith qu'il n'y a aucun mal à pleurer devant la tombe d'une personne qui est décédée. Ce sont là des sentiments humains. Au contraire, si quelqu'un n'éprouve aucune douleur, aucune tristesse devant son père ou sa mère qui est décédée, là il y a quelque chose d'anormal, là il y a quelque chose d'inhumain. Le prophète Ali salat wa salam avait perdu Ibrahim également. Lorsqu'il a perdu son petit-fils Ibrahim, il pleurait. Il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Sahaba avait dit au prophète d'Allah, pourquoi est-ce que tu pleures? Il pensait que pleurer, ça va à l'encontre du destin, de l'acceptation. Parce qu'on va voir, intégrer, accepter, yani quand on parle de croire au taqdir, c'est accepter le taqdir. C'est pas juste une théorie. Je sais que tout est prédestiné, mais quand il arrive à moi, il ne comprend plus rien. Non, je sais que tout est prédestiné et je l'accepte. Et j'agis en fonction de ce qu'Allah attend de moi. J'ai la réaction du croyant et non pas la réaction de l'ignorant. Celui qui va s'accabler sur son sort, qui voudra que tout le monde, que toute l'humanité le prenne en pitié et qu'il devienne le centre d'intérêt et qu'on va le porter, qu'on va le protéger, ça va pas. Ça marche pas ça. On vit pas dans le monde des bisounours. Vous êtes éprouvés. On aura pitié de vous un jour, deux jours, trois jours. Après un moment donné, regardez les veuves, regardez les veufs, regardez les orphelins. Jusqu'à quand est-ce qu'on prend pitié d'eux? Malheureusement, on devrait avoir plus de raham. Mais on connaît, moi j'ai des gens, des proches, on voit des enfants qui ont perdu leur papa, il y a un an et demi, deux ans, tout le monde était autour d'eux. Au bout de quelques temps, c'est fini. Les enfants, 10 ans, 8 ans, au bout de quelques temps, redeviennent des enfants, les gens n'ont plus autant de pitié, n'ont plus autant d'affection. Là, c'est une parenthèse à la parenthèse. On voit comment dans l'islam, subhanallah, on encourage le fait d'agir humainement avec ihsan envers ces personnes. À un tel point que quand on caresse les cheveux de l'orphelin, pour chaque cheveu, chaque poil, chaque cheveu, mashallah, on a des hasanats. Tout ça, c'est ajib. Ça nous fait comprendre que notre dîn n'a rien laissé au hasard. Le côté humain, la cohésion au sein de la société, ça c'est quelque chose d'omniprésent. Quand on parle de salat al-rahim, entretenir les liens dans la famille, quand on parle des relations de voisinage, quand on parle de l'héritage, quand on parle maintenant d'agir correctement vers les faibles, les orphelins, les gens démunis par la zakat, la sadaqa, on voit vraiment, mes chers frères en islam, que notre dîn, c'est pas ce qui se passe à Sydney. C'est pas du tout ça. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est pas ça, nous on ne se reconnaît pas. On n'a même pas besoin de s'excuser, de se justifier, parce qu'on considère ça comme un mouvement totalement étranger. Je dis même pas marginal, parce que quand on dit marginal, c'est qu'il se marginalise à partir d'une source, d'une base qui existe. Non, c'est un mouvement totalement étranger. Le meurtre d'innocents, c'est quelque chose que notre prophète Ali salat wa salam n'a jamais fait. Et on passe en revue cet après-midi toutes les batailles, depuis Badr jusqu'à la reprise de Makkatul Mukarrama, jusqu'à Hunayn, il n'y a jamais eu de volm, il n'y a jamais eu d'oppression de la part de notre prophète Ali salat wa salam. Ça fait trois parenthèses qu'on essaie de les refermer une par une. Pour revenir vers ce qu'on disait tout à l'heure, le prophète Ali salat wa salam, subhanallah, a été éprouvé donc par la mort. Donc la mort de son papa, ensuite la mort de sa maman, ensuite il va se rapprocher de son grand-père. Et deux ans après, son grand-père meurt. Il va se rapprocher de son oncle et il trouve chez son oncle. Vous savez, chez les Arabes, l'oncle, c'est comme le papa. Il trouve chez son oncle, on va dire, l'affection paternelle. Et il trouve la protection, bi-idhnillah. Allah a utilisé Abu Talib comme asbab pour protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il paie Abu Talib quelque temps après. Il a le réconfort avec Khadija depuis son mariage. Et Khadija, c'était tout pour le prophète, alayhi salatu wa salam. Il va perdre Khadija et Abu Talib la même année. Ajib, Amul Huzn, l'année de la tristesse. Dites-moi, y a-t-il un homme qui a été autant éprouvé par la mort que notre prophète, alayhi salatu wa salam? La perte de sa fille, j'ai plus le nom de sa fille en tête, celle qui est décédée. Il a réalisé autant de cas de décès parmi les proches du prophète alayhi salatu wassalam. Personne n'a été éprouvé de cette façon. Tout ça, ce sont des leçons de sabr pour nous. La réaction du croyant, c'est comme la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour qu'on comprenne que développer la foi sur le destin, c'est quelque chose de capital, parce qu'il n'y a pas une personne de cette assemblée qui un jour ne perdra pas un proche. À moins que c'est nous qui sommes en premier. Si notre fusil qui sort en premier, dans ce cas, on n'aura vu personne mourir autour de nous. Mais c'est ce qu'on souhaite à personne. Chacun verra la mort de proche. On verra tous. Soit, dans 95% des cas, on porte le janaza de notre papa. On porte le janaza, c'est-à-dire le corps de notre maman qu'on va enterrer, ou de nos grands-parents. Très rare que c'est le contraire qui se passe. Comment vivre ces situations? Comment faire en sorte qu'on ne s'enfonce pas, qu'on ne tombe pas dans la déprime? Il a réalisé. Tout ça, ce sont des fawa'id. Tout ça, la foi sur le taqdir nous permet donc de dépasser, d'intégrer, de dépasser et d'en ressortir grandi comme une épreuve de la part d'Allah qui nous permet d'avancer, de nous rapprocher de lui. Car au début du verset, il dit « Wala nabluwannakum ». Donc ça vient de la racine « ibtila », le verbe « éprouver ». Et tout ce qu'on a cité après, ce sont là des épreuves de la part d'Allah Azza wa Jal. On revient vers le texte. L'auteur du commentaire de Riyad Salihin dit « At-taqdir », c'est premièrement, c'est que chaque personne intègre le fait qu'Allah Azza wa Jal a créé « al-qalam ». On peut traduire par plume, par stylo, mais ça va être des termes humains. Quand je dis « al-qalam », ce n'est pas mon stylo à moi. Ce n'est pas une plume, ce n'est pas un stylo. C'est vraiment le « qalam » qu'Allah a créé. Allah seul sait comment il est. Et Allah Azza wa Jal a demandé au « qalam » « uktub ». « Uktub » quoi veut dire ?« Écrit ». Inch'Allah, on est des arabophones là. Et le stylo a demandé. Le stylo a demandé. Il m'a jamais demandé rien lui. Hein. Déjà, on comprend que « fariq » بين الدنيا والآخرة. On voit déjà dans les premières phrases, là on parle du début de la création. Lorsqu'Allah Azza wa Jal demande au stylo, au qalam, excusez-moi, au qalam d'écrire. Alors déjà, on se dit que, Allah lui demande d'écrire, mais qui décide? Là on voit que ça c'est alam, le monde du raïb, le monde de l'invisible. C'est un mode de fonctionnement qu'Allah ne nous a même pas demandé de comprendre. N'essayez même pas de comprendre, parce que ça c'est le monde du raïb, ça c'est l'organisation d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah a demandé au qalam, au stylo d'écrire, au qalam d'écrire, et le stylo demande, le qalam, pardon, demande « Wama aktub », « Oh Allah, qu'est-ce que j'écris ?» Là aussi on se dit, il ne connaît pas comment ça se fait, ça c'est le taqdir d'Allah Azza wa Jal. « Uktub ma huwa ka'inun » jusqu'à la fin du hadith, c'est un peu long. Allah Rabbul Izzah a demandé au qalam d'écrire tout ce qui va se passer. Bima huwa ka'in ila yawmil qiyamah. Depuis cet instant, c'est-à-dire quand il n'y a personne, il n'y a pas de créature. Jusqu'au qiyamah, là il n'y a pas d'ins, il n'y a pas de djinn, il n'y a personne. Jusqu'au qiyamah. Donc, après en commentaire, il dit Fama asaba al-insan lam yakun liyukhtiya. Wama akhta'ahu lam yakun liyusiba. Ça, c'est la phrase en or qu'on doit intégrer. Ce qui arrive à l'homme, l'homme n'aurait pas pu l'éviter. Et ce que l'homme n'a pas pu obtenir dans sa vie, il n'aurait jamais pu l'avoir, sachant que tout a été prédestiné, tout est dans le destin, tout est dans le taqdir. Et en rajoutant en commentaire, il cite quelques versets. Les versets sont un peu longs, on n'a pas prévu la traduction. Alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tu ne sais pas donc qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Inna fi dha, inna dhalika fi kitab. Tout est inscrit dans un livre. Inna dhalika ala Allah yasir. Et c'est chose facile pour Allah Azza wa Jal. Dans notre verset de l'hadith, il dit Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Que tout a été créé dans, tout a été, pardon, écrit dans le livre avant même, min qabli an nabra'aha, ay qabla an nakhluqa al-ard. Avant même la création de la terre, tout a déjà été prédestiné, tout a déjà été écrit dans le kitab, dans le livre. Maintenant, pour bien décortiquer, bien comprendre le taqdir, ce n'est pas quelque chose d'aisé, ça. On ne va pas dire qu'on peut expliquer la foi sur le destin en une séance. C'est impossible. Ça, il y a des mu'allafat, il y a des encyclopédies, des livres, 5-6 volumes qui ont été écrits sur le taqdir. faut savoir également qu'il y a des gens qui se sont déviés de la foi par une croyance erronée sur le taqdir. C'est le cas des Jabariya et le cas des Qadariya. Ce sont les premières sectes qui sont apparues dans l'histoire de l'islam juste après les Sahaba. Premier siècle, les Qadariya et les Jabariya. Les Jabariya, selon eux, ils voulaient comprendre, et ça c'est l'erreur très grave. On ne doit pas, surtout pas, s'approcher de cette erreur. Les Jabariya, ils voulaient comprendre le destin par la logique humaine. Mais ils n'avaient pas intégré que c'est la décision d'Allah. On ne peut pas comprendre la décision d'Allah avec un cerveau humain. C'est impossible. C'est inaccessible. D'ailleurs, Allah ne nous a même pas demandé de comprendre ce taqdir. Allah nous a demandé de croire. Al-imanu bil-qada'i wal-qada'i, de croire au destin et non pas d'essayer de comprendre le fonctionnement du début jusqu'à la fin. Autrement, il y a plein de choses qu'on ne comprendrait pas. Et moi, mon histoire préférée du Coran, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam. Nous voyons tellement de points qui, à nos yeux, paraissent incohérents. On a eu l'occasion d'expliquer dans différents programmes. On se dit que pourquoi est-ce que Moussa alayhi salam va naître l'année où on tue les bébés? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas l'année où on ne tue pas? Et tellement d'événements qui vont à l'encontre du scénario idéal qu'un homme aurait écrit. Et qu'au début, si on ne connaît pas à la fin de l'histoire, on se dit que c'est une histoire qui va mal se terminer. À chaque étape, tout peut basculer. Mais en finalité, on voit comment Allah a prédestiné les choses, c'est ajib. Depuis les premières étapes de sa naissance, il y a des problèmes. Des problèmes à nos yeux, aux yeux de l'homme. Jusqu'aux dernières étapes de la destruction de Pharaon, où la mer qui s'ouvre, et que la mer reste ouverte, et que les gens, alhamdoulilah, Moussa et Saïd ben Israël peuvent s'enfuir, mais les pharaons et son armée rentrent également. On se dit que c'est pas comme ça il fallait. L'histoire n'aurait pas dû être comme ça, il aurait dû fermer la mer pour que Pharaon ne puisse pas franchir. Mais après on se rend compte que c'était là le taqdir d'Allah Azza wa Jal, la décision d'Allah, les étapes qu'Allah avait prédestinées et que c'était la meilleure des issues. Et les savants disent, regardez juste l'histoire de Moussa alayhi salam, wa alayha faqis. Et sur cette histoire, par tiède de cette histoire, fais analogie sur tous les événements de ta vie. Sur chaque étape, chaque péripétie de ton existence, tu vas comprendre qu'il y a des fois où il y a des choses qui se produisent que tu n'aurais pas souhaité. Tu aurais souhaité que ça se passe différemment, autrement. J'ai tout fait pour avoir telle chose, je ne l'ai pas eu. Comment est-ce possible? Tu te prends la tête, tu culpabilises, tu es frustré, tu te remets en question de la mauvaise façon et tu doutes de toi. Et on rentre dans une spirale où on commence à perdre confiance en soi et à devenir défaitiste. Alors que si on intègre la phrase en or qu'on a dit, que l'homme sache que ce qui lui arrive, ce qu'il va gagner, c'est uniquement ce qu'Allah lui a prédestiné. Et ce qui n'est pas écrit de ton taqdir, l'un de ton rizq, de ta subsistance, de ton rosi, si on pourrait dire, tu n'auras jamais. Même si tu fais tous les efforts du monde. Et ce qui ne t'est pas prédestiné, tu ne peux pas l'avoir. Même si tu bouges dans tous les sens, ce qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Et ce qui est pour toi, tu l'auras. Même si les gens essaient de t'empêcher d'avoir ça, si Allah te l'a prédestiné, tu vas l'avoir. Ça, c'est des choses qui apaisent les cœurs. On sait que tout est dans les mains d'Allah. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas soudfa, ce n'est pas concours de circonstances. Tout ce qui se passe, les asbabs qui vont intervenir, ce sont là des asbabs qui interviennent par l'ordre d'Allah. On laisse les choses venir avec confiance en Allah, en faisant les actions, les asbab. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il quitte Makkah pour aller à Madina, combien d'asbab, combien de précautions il a pris? C'est pas dit non plus que bon, je vais à Madina, je suis le prophète d'Allah, sous la protection d'Allah, Allah va envoyer des anges me protéger. Est-ce qu'Allah aurait pu le faire? Bien sûr! Bien sûr! Quand quelques années avant, l'ange des montagnes est venu pour dire, est-ce que on détruit le Taïf ben al-Akhshabayn? Est-ce qu'on détruit le peuple de Taïf en deux montagnes? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple qu'un ange vienne et d'un coup d'aile, il écarte 20 Quraysh? Et de l'autre côté, ça aurait été un peuple, un village qui aurait été détruit avec leurs biens, leurs maisons, tout ce qu'ils ont construit. Et là, une vingtaine de cavaliers qui vont essayer d'attraper le Prophète sallam. Est-ce qu'il n'aurait pas été aisé, facile pour Allah de les détruire, de les ensevelir ou de les faire disparaître sans le moindre problème? Mais à travers chaque étape de la sira de la vie du Prophète sallam, Allah Rabbul Izzah a voulu qu'il y ait des leçons de sagesse pour la Ummah. C'est-à-dire jusqu'au Qiyamah, Tant qu'il y aura quelqu'un qui a iman, il pourra prendre le Coran comme exemple, mettre en pratique. Certes, il pourra prendre la vie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque étape de sa vie, de la sirah, et de le mettre en pratique dans sa vie, d'en tirer les leçons pour les appliquer dans les situations qu'il va vivre lui, dans sa vie de croyant au 21e siècle, au 25e siècle, que ce soit à La Réunion, aux îles Comores, à Mayotte, en Europe, en Afrique, en Asie, quel que soit l'endroit. Ça, c'est le miracle du Coran et c'est le miracle de la sunna. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, quand il prend la route, il prend des précautions. Ta'lim, c'est un enseignement pour sa umma. Au lieu de prendre le chemin qui va directement vers Madina, il prend un chemin opposé, où personne ne penserait aller le chercher. Et le Prophète va rester dans une grotte combien de nuits? 3 nuits. Pourquoi? Au moins les gens ils commencent à chercher. Au bout de 3 jours, on se dit que ce sera là. Il est déjà très loin, on ne va plus l'attraper. Et là, le Prophète va sortir. Tout ça, c'était des asbab. Lorsqu'il va voir Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, pour lui annoncer la nouvelle qu'Allah t'a choisi pour m'accompagner, maintenant c'est le moment d'aller, de quitter Makka, il va le voir à l'heure de Zawal, en plein soleil. Vous savez, quand il fait chaud à Madina, à Makka, 50, 52. Moi, j'ai vu de mes yeux 52 degrés à 14 heures. Et à cette heure-ci, il n'y a personne qui est dehors. Le Prophète va sortir à cette heure-ci. Quand il n'y a personne, ça c'est la discrétion totale pour que personne ne le voit. Tout ça, c'est des asbab. Est-ce que le prophète ne croyait pas au taqdir? Bien sûr que oui qu'il croyait. Mais c'est là qu'on voit le côté cohérent. On laisse tout, tout est dans les mains d'Allah. On sait que c'est Allah qui décide. Mais Allah te demande également de prendre des précautions. D'être bien intentionné, bien sûr. À la base, il faut le nia et sincère. Tout ce qu'on fait, c'est pour Allah et on aura l'aide d'Allah. On prend les précautions. Ensuite, tu as pris tes précautions, khalas, ce qui arrive, c'est Allah qui a décidé, ne te prends pas la tête, ne t'en fais pas. Tu as fait ce qu'il fallait faire, ce que humainement tu pouvais faire, tu l'as fait, alhamdoulilah. Maintenant, ce qui arrive, c'est dans les mains d'Allah, azza wa jal. Ça apporte la tranquillité du cœur. On ne vit pas non plus dans un monde chimérique, on dit, c'est Dieu qui décide tout, moi je ne fais rien. Non, il y a le juste milieu. On a vu l'exemple de Sahaba qui avait venu à la masjid avec son chameau, il avait le chemin parti. D'accord? Le Prophète dit Aqilha, thumma tawakkal ala Allah. Le Prophète dit attache ton chameau, ensuite tu fais confiance en Allah. Attache ton chameau, ensuite mets ta confiance en Allah. C'est pas juste que je viens avec mon chameau à la masjid, je suis dans le chemin d'Allah, je vais faire la salat, les anges sont présents, il y a un malaïka qui va surveiller mon chameau, de toute façon, personne. Ah, il y a akhi, le chameau, c'est la fitra. Chaque créature a été créée avec un mode de fonctionnement. Il est créé comme ça, il s'en va lui. Il n'est pas là, écoute, le chameau. Leçon d'ars pour les sahaba, que prends tes précautions et une fois les précautions prises, sache que tout est dans les mains d'Allah maintenant, que ton cœur soit apaisé. Chers frères, en islam, développer le imam al-qada et al-qadr, ça fait de nous des bonhommes, des hommes, ça fait de nous des rijal, avec un esprit, avec une foi bien sûr forte, mais également une personnalité forte. On peut affronter les événements de la vie, on peut faire face la tête haute. On voit les choses, on peut regarder les gens dans les yeux. On n'a peur de personne. On n'a pas honte de sa foi, de son avenir. Ce n'est pas que je vais vendre ma religion pour avoir un peu de dunya. Abadan, on sait que c'est Allah qui prend les décisions. Avoir iman sur le taqdir, c'est développer également notre confiance en Allah. C'est de savoir également que le cœur de chaque personne est entre les mains d'Allah. Allah change les cœurs comme il veut. Aujourd'hui, cette personne vous déteste. Vous faites doua passer une nuit de Qiyam al-Layl. Lendemain, cette personne éprouve autre chose. La personne, la pitié ou les sentiments changent. Tout ça, c'est des choses qu'on peut atteindre. Mais à condition que la relation avec Allah dans le cœur soit parfaite. Donc, pour revenir, on s'écarte du sujet. Les savants disent, on va être très bref. Juste citer les points essentiels. Pour qu'un musulman intègre réellement la notion de destin, il faut qu'il intègre 4 points. Il y a des points qui seront faciles à comprendre. Il y a des points qui sont très difficiles. D'accord? Comme on l'a dit, ça fait partie du rêve. Et les savants disent également, parenthèse, celui qui a su développer la foi sur le destin, c'est lui qui va atteindre les plus hauts degrés de iman. On pourra atteindre les plus hauts degrés de la foi qu'à partir du moment où on a développé la foi sur le destin. Parce que d'une certaine façon, quand vous avez développé la foi sur le destin, là, vous fermez les portes à beaucoup de choses, beaucoup de sentiments négatifs. Est-ce que quelqu'un éprouvera de la jalousie pour son frère en islam? Là, on voit le côté négatif, là. Le péché. Est-ce que quelqu'un éprouvera de la jalousie envers son frère en islam parce qu'il a eu tel bienfait, s'est marié avec telle jolie fille que moi aussi j'étais amoureux d'elle et lui il a eu, félicitations mon frère, Mubarak, d'accord? Est-ce que je vais, soyez ça fait de bref, hein? Est-ce que je vais être jaloux? Dans la vie normale, oui. Ah, pourquoi c'est il a gagné le tantine? Pourquoi moi un poitant, son figuier est travers, moi il est comme ça? Pas où, hein? D'accord? taqdir, destin. Est-ce que je vais souhaiter le mal pour quelqu'un? Est-ce qu'il me passera par la tête d'aller semer la zizanie entre deux personnes? Est-ce qu'il va me passer par la tête d'essayer de détourner les biens de mon frère en islam pour voler une part d'héritage, sachant que personne ne pourra avoir plus que ce qu'Allah lui a prédestiné? Et si quelqu'un était injuste, quelles seront les conséquences de Qiyama? Est-ce qu'il me passerait par la tête? Ça, c'est vraiment, Allah musta'an, une réalité de société. On va voir telle personne, va dire que lui, il réussit tout. Allons arranger Ali un petit peu là, fait un petit travail, au moins, tac, tac, on le casse. On va faire, comment vous appelez ça chez vous, on va faire jadou, on va faire sihr, on va voir un sorcier, on va arranger la personne pour qu'il soit un peu moins heureux. Et il est trop heureux, lui. Lui, il est en l'air, il réussit tout. On va essayer de le faire revenir un peu sur la terre. Ça, c'est kufr. Celui qui fait ce travail-là, il meurt comme un kafir. Il est ressuscité comme un kafir. Attention, qu'Allah nous protège, nous préserve. Celui qui n'a pas iman sur le destin, tout va commencer, les sentiments négatifs vont naître dans son cœur à partir de hasad, de la jalousie. Et à partir de la jalousie, tu décides soit de faire la médisance, ça reste soft, ça reste haram, hein, mais ça reste soft. Médisance, calomnie, qila wa qal, namima, essayer de se semer la zizanie, colporter les nouvelles. Maintenant, si on veut aller, si la personne a encore plus de mauvaises intentions, elle va essayer d'agir. Va demander aux gens, allez, tape Ali, fais telle chose et tout, va essayer de faire plaisir ce travail, ou alors, allez, vendre son âme, faire du kufr pour faire du tort à la personne, et on va penser que voilà, maintenant on l'a cassé, maintenant je suis heureux. Tu es heureux? Regarde ton cœur, il n'y a plus rien. Afia, Allahumma afia. Il n'y a plus rien ton cœur, il n'y a plus d'iman, il n'y a plus rien. Tu as fait un travail de shirk. Malik al-Mawt vient reprendre ton âme. Tu dis quoi? C'est un succès que tu as pu casser ton frère en islam? Et que tu as vendu ton iman, nas'Allah salamata wa al-afiya. Il y a beaucoup de musulmans qui tombent, qui sombrent dans ce genre de péché, qu'Allah nous protège. La solution, je dis la solution miracle, c'est les arkan al-iman, développer la foi. Et quand je crois au destin, je n'ai plus aucune animosité dans mon cœur pour mon frère en islam. Et du coup, je commence à comprendre que sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, il y aura une catégorie de personnes. On parle des relations de cœur. Celui qui aimait son prochain en Allah, aimait son frère en islam parce qu'il y a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dans son cœur. Ne jamais être jaloux, ne jamais avoir de sentiments négatifs, toujours avoir du positif. Mais ça, c'est possible qu'à partir du moment où on a une conviction ferme, 100% sûre, sur le destin. Donc, on revient, les quatre points développés, c'est al-ilm. Premièrement, enfin, al-ilm, je veux dire, أن تؤمن بأن الله عليم بكل شيء. Avoir iman sur le ilm d'Allah. Je voulais dire. Avoir la foi sur la connaissance, le ilm d'Allah. Et pas mal de versets, ce qu'on a cité tout à l'heure, d'autres également. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. D'autres versets qui prouvent qu'Allah il a connaissance de tout. On a eu l'occasion de développer ça avant qu'on avait parlé de al-iman billah. Allah connaît le passé, le présent, le futur et même le futur conditionnel. Les quatre figures qui ne se produisent pas, Allah il sait que s'ils s'étaient produits, comment le dunya aurait été. Ça c'est le règne d'Allah. Allah il connaît quand une personne dit quelque chose, quelle que soit la langue. Allah sait également ce qu'il y a dans nos cœurs. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ. Allah il connaît même les secrets, tout ce qu'il y a intérieurement, donc dans notre cœur. Allah Rabbul Izzah sait également les moindres détails de la création. Il y a le verset magnifique de Sourate Al-An'am. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Allah connaît ce qu'il y a sur la terre, ce qu'il y a dans les mers, فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Et on s'arrêtera à cet exemple qui est extraordinaire. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah ne connaît exactement que cette feuille tombe, sans qu'Allah ne l'ait prédestinée. Les savants disent, c'est des choses que le cerveau humain ne peut pas réaliser. Si vous prenez un verger avec 10 arbres, combien de feuilles tombent tous les jours? Est-ce que vous pouvez mettre le ministre des Finances, je ne sais pas si on en a un nous, le ministre des Finances, de l'économie, celui qui sait compter mieux que d'autres, il va mettre des appareils ultra sensibles pour voir les feuilles qui tombent. Est-ce qu'il pourra vous dire, à l'île de la Réunion, à 21h10, il y a eu 436 000 feuilles qui sont tombées. Personne. Mais la métaphore du Coran est extraordinaire et puissante. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre, quel que soit l'endroit du dunya, il l'a. مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Sans qu'Allah Azza wa Jal ne le sache, ne connaît exactement. Et les savants disent, et ça c'est une déduction qui, subhanallah, est magnifique, dit que le fait d'être conscient qu'Allah connaît tout, ben, que tu sois rassuré, ô mu'min, ô musulman, sois rassuré. Quand tu as un problème, quand tu es dans une difficulté, il n'y a rien de pire que de se dire que personne ne va compatir, personne ne sait ce que je vis. Mais le plus grand réconfort, c'est quand tu te dis que Allah, c'est exactement ma douleur. Allah, c'est exactement ma souffrance. Allah, c'est exactement quelle épreuve je suis en train de traverser. Le seul qui connaît, c'est Allah. Celui qui connaît la feuille qui tombe de l'arbre à n'importe quel moment, celui qui connaît Dabib ou Naml, comment on appelle ça ? La, pas la fourmi, la fourmi noire sur un rocher noir, hein, dans une nuit noire qui marche, Allah Rabbul Izzah, il sait, il connaît exactement. Ben Allah, il connaît ce qu'il y a dans le cœur de chacun de ses serviteurs, d'autant plus que nous sommes les Ahsanul Makhlouqat, les meilleurs, les créatures les plus aimées par Allah Azza wa Jal. Qu'on réalise que rien n'échappe au ilm d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est déjà une première étape pour une prise de conscience qu'Allah, il connaît exactement tout ce qui se passe. La deuxième étape, ces points-là doivent être développés, hein, mais c'est juste, on a dit, on cite les points essentiels. Al-Martaba Thania, la deuxième étape, Al-Kitab. Avoir la foi que tout a été écrit dans le livre. Comme on a vu dans le verset du début, on ne va pas les reciter, tout a déjà été écrit. D'où le hadith, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam explique à ce jeune garçon que sache que si le monde entier se réunit pour t'apporter quelque chose, il ne t'apporterait rien de plus que ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Et sache que si le monde entier se réunissait pour te causer du tort, ils ne te feront aucun mal de plus que ce qu'Allah a déjà écrit dans ton destin. Et le prophète m'a dit, « Rufi'at al-aqlam, jufat al-suhuf, sache, ô mon enfant, que le stylo, Rufi'at, comment on peut traduire ça ? Je n'ai pas la traduction, le stylo est élevé. C'est-à-dire que le stylo devait écrire, mais le stylo, comme si il a quitté, il n'est plus en contact avec la feuille. C'est-à-dire que tout a déjà été écrit. Et les feuilles ont, et l'encre a séché. C'est-à-dire que tout est déjà prédestiné. Donc ne te fais pas de soucis, entre guillemets, ne te prends pas la tête. N'angoisse pas pour l'avenir, pour le futur, pour ce que les gens peuvent éventuellement te faire, pour ce qu'il peut éventuellement m'arriver. Chers frères, on repense même tout à l'heure, si quelqu'un commence à angoisser, Allahu Akbar, combien de bactéries sont en train de circuler dans cette masjid? On peut se dire que là, ma pache, ma belle pierre, peut-être le madame la Ebola la passe par là, mitrape l'Ebola, peut-être telle chose, en sortant, je peux m'arriver à un accident, en sortant, je peux trébucher sur la moquette, tomber, me fouler la cheville, luxation du genou, tout est possible, oui ou non? Il peut nous arriver n'importe quel malheur, n'importe quel instant. Faisant la soirée avec un gros mille pattes qui est passé près de moi. Mais un joli mille pattes, hein, d'accord? Mais il peut être un scorpion, il aurait pu être un serpent, il peut être autre chose. Il a réalisé, le toit peut s'écrouler, le ventilateur peut se décrocher et il décapite 25 personnes. C'est possible, c'est pas possible. Je dis, Moussa, regarde trop télé. Mais qui est passé un bel scénario comme ça, hein? Tout, mes chers frères, si on commence à entrer dans les psychoses, qu'est-ce qui peut arriver? On peut avoir peur de tout. À commencer, chaque inspiration. Combien de bactéries j'inspire et qui sont filtrées par les narines et ainsi de suite, éliminées, que ça ne touche pas les poumons, ça ne touche pas les organes. Tout ça, c'est la création d'Allah. Tawakkal ala Allah, ya akhi. Confiance en Allah. Bah, avant, quand tu ne connaissais pas, quand on ne connaissait pas le monde des bactéries, des microbes là, les gens étaient plus heureux? Est-ce qu'ils étaient moins malades? Le fait qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas cette angoisse. Nous, on sait, mais on sait que tout ça, c'est la décision d'Allah Azza wa Jal. Donc, le fait de savoir que tout a été écrit, tout a été prédestiné, c'est écrit dans un livret, on a le cœur apaisé. Et en commentaire, les muhaddithines expliquent, dit que la taqlaq, ne sois pas angoissé. Sache, et ça reprend le terme du hadith, que ce qui a été écrit de le destin de Ibrahim, de le destin de Muhammad, de le destin de Riyad, c'est exactement ce qui est écrit qui va lui arriver. Et rien d'autre, rien de mieux, mais rien de pire. Et ça nous ramène maintenant, là vraiment on explique de façon très concise, ça nous ramène maintenant vers la troisième étape, c'est Mashi'atullah. Et ça, c'est une des étapes les plus compliquées à comprendre. Tout se passe dans la création d'Allah, Bimashi'atihi, en fonction de sa volonté. Et donc, quand tu as réalisé que tout est écrit dans le destin, tout est écrit dans le livret, ben, c'est en fonction de la volonté d'Allah. Et ce qui apaise les cœurs, c'est que tu sais qu'Allah ne veut jamais du mal pour son serviteur. Jamais Allah ne va t'envoyer quelque chose pour te détruire ou pour t'affecter. Ce sera toujours des ibtilas, des épreuves, pour t'élever, pour t'apporter quelque chose de mieux. Pour revenir légèrement en arrière sur le Kitab, il y a ce qui a été écrit avant la création des cieux et de la terre. Après, il y a d'autres catégories d'écriture. Il y a également, lorsque le fœtus est dans le ventre de la maman, « Ida tammalahu arba'at ashur » lorsque 4 mois sont évolués, l'ange vient, l'ange qui a été créé pour Al-Arham, pour le fœtus, pour les enfants qui sont en formation de le ventre de la maman, il vient, فَيَنْفُرُ فِيهِ الرُّوحِ, il apporte l'âme, il insuffle l'âme dans le corps de ce petit bébé, qui n'est pas encore un bébé, qui est encore un être inanimé. Et ensuite, وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ, il reçoit l'ordre de 4 points concernant sa subsistance, sa vie, ses actions, et s'il sera quelqu'un de heureux ou de malheureux. Et là, l'ange écrit tout cela, et ça, c'est pas la même chose qui est écrite dans le Lawh Mahfouz. Ce sont 2 choses différentes. Un, c'est un taqdir général concernant l'humanité. L'autre, c'est un taqdir, c'est une écriture concernant chaque individu. Après, il y a également, c'est pour ça que je dis qu'à partir de 4 mois, vraiment, on entend le cœur battre. Là, il devient un être vivant quand l'âme a été insufflée. Ça, c'est des choses que subhanallah, le prophète nous enseignait. Il y a d'autres écritures également, c'est lors de la nuit du destin. Et là, c'est un taqdir sanawi. C'est un taqdir, un destin pour l'année. Bien qu'on comprend que l'étape de Al-Kitab, ce qui est écrit, ça se divise en plusieurs choses également. Il ne nous est pas demandé de tout maîtriser, mais d'y croire. Et réaliser que tout est sous le contrôle d'Allah, sous le ilm d'Allah Azza wa Jal, et c'est Allah qui avait ordonné au qalam d'écrire, tout comme Allah ordonne à l'ange chargé du destin, donc du fœtus également, d'écrire les 4 points. Et pour arriver donc au 3e point qu'on avait dit, tout se passe sous l'ordre d'Allah bi mashi'atillah. Et il y a des fois où Allah prédestine quelque chose de positif pour nous, il y a des fois où Allah Rabbul Izzah prédestine quelque chose qui nous paraît difficile. Et le iman du croyant, je recherche le verset, c'est lorsqu'Allah Rabbul Izzah dit Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il y a des fois où on veut quelque chose et cette chose est mauvaise pour nous. Donc Allah ne nous donne pas. Il y a des fois où on ne veut pas, on veut rester éloigné de quelque chose, mais Allah le prédestine parce qu'il y a un bien. La réaction du croyant, c'est quoi? C'est d'accepter ce qui lui arrive, de bien ou de, je ne dis pas ou de mal, mais de moins bien. Et se dire que tout ça, ça vient d'Allah et il y a un khair dedans. Tout ça, c'est sous le machia, la volonté d'Allah. Et si on pousse un peu plus loin, mais le but, ce n'est pas de pousser ce soir, on voit, il y a des hadiths qui sont magnifiques. Il dit que pour certaines personnes, Allah a prédestiné la pauvreté. Pour certaines personnes, Allah a prédestiné al-faqr, la pauvreté. Il y a des gens qui voient la pauvreté comme une fatalité ou comme un malheur. Ils vont faire tout pour dépasser cette étape, pour devenir riche, pour avoir de l'argent. Ce qui n'est pas interdit. Tant que ça ne devient pas envahissant, tant que ça ne nous empêche pas de faire les bonnes actions, les salats, ainsi de suite, sans le moindre doute. Mais la personne va se débattre toute sa vie. Il ne deviendra jamais riche. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas écrit la richesse pour lui. Et le hadith explique, parce qu'Allah sait. Et c'est là qu'on touche du doigt la connaissance d'Allah concernant le futur conditionnel. On n'allait pas parler de ça à un prof de philo, ou un prof de science ou autre chose. Un prof de français, oui, le conditionnel connaît, mais le futur conditionnel, oui. Mais ça n'existe pas, c'est juste un temps. C'est dans les Becherel, basse, pas plus. Allah sait pertinemment, Allah connaît, ça c'est le ilm d'Allah. Et vous savez, à chaque fois qu'on va expliquer un point du taqdir, ça revient vers ces 4 bases. Allah sait que telle personne, s'il avait eu la richesse, comment ça aurait été un fitna pour lui. Que si telle personne qui aujourd'hui vit avec des moyens très limités, s'il était riche, cet argent-là l'aurait éloigné de l'obéissance d'Allah. Il aurait eu de l'argent, il aurait pris de l'ampleur, son cœur se serait peut-être enflé d'orgueil, il aurait été fier, il n'aurait pas fréquenté les membres de sa communauté, il ne viendrait pas à la masjid, il se sentirait supérieur. Il serait préoccupé par la gestion de son patrimoine, de son argent, et qu'en finalité, il va oublier Allah. Est-ce que c'est une vie accomplie, ça? Mourir sur un matelas de 500 euros, mais sans iman, sans salat, ne riez pas, ne fantasmez pas là-dessus, ça n'apporte, wallah, il a rime strictement rien. Mourir sur un matelas de 500 euros et être incapable de dire « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah » avant de mourir sans qu'on ait une salah, mis à part salatul jum'a, et les salats accomplis durant le mois de Ramadan, et les idéens, mis à part ça, on n'a aucune salah dans le livret de compte. Est-ce que c'est ça le falah? Est-ce que c'est ça le succès? La wallah. Et donc Allah Rabbul Izzah prédestine la pauvreté pour certaines personnes, parce qu'Allah Azza wa Jal connaît dans sa science infinie que si telle personne avait eu la richesse, cette richesse aurait été une cause de perdition, ça aurait été un fitna pour la personne. Et par rahma, par amour, par pitié pour ce makhlouk, cette créature, Allah Rabbul Izzah ne lui permet pas d'atteindre la richesse. Taqdir, mashi'atullah. Et pour d'autres personnes, Allah a prédestiné les biens, les ni'ma. Parce que si cette personne n'avait pas eu ça, la personne n'aurait pas pu s'en sortir. La pauvreté l'aurait amené vers d'autres erreurs, vers d'autres péchés pour essayer d'avoir. C'est un hadith qui est magnifique, un hadith authentique, qui explique pourquoi est-ce qu'Allah a donné à certaines personnes et n'a pas donné à d'autres personnes. Tout est sous le la mashi'atullah azza wa jalla, la volonté d'Allah Rabbul Izzah. Puis si on pousse un peu plus loin, quand on voit que les gens qui n'ont pas les moyens, qui ont vécu pauvres de ce dunya, vont entrer dans le Jannah 500 années avant les arniya, avant les riches mu'mines, les riches croyants pratiquant de bonnes œuvres, là on comprend un petit peu mieux la hikmah d'Allah azza wa jalla. Mais tant qu'on ne développe pas le iman bil qada et wal qadr, on va se sentir amoindri. On va développer des complexes d'infériorité. Il n'y a rien. Comme je l'ai dit, quand on développe le taqdir, on devient faux psychologiquement. On est capable de regarder quelqu'un dans ses yeux. On ne parle pas d'orgueil, de fierté, là. Mais je veux dire qu'on n'aura jamais de sentiment de complexe d'infériorité. Hein, moi, je suis pauvre. Moi, je sors de tel quartier, la Rocade, ou je sors de Moufia, Saint-Clotilde. Lui, c'est grands oiseaux. Lui, il sort machin. Lui, il a étudié à Paris. Il a étudié à la Sorbonne. Lui, il a étudié à tel machin. Lui, c'est un crack. À moi, c'est, je fais pitié. Non, tu ne fais pas pitié, Yahri. Tu as iman billah de ton cœur. Si lui n'a pas iman, tu es mille fois supérieur à lui pour Allah Azza wa Jal. Et quand on intègre la foi sur le destin, on a confiance en soi. Parce qu'on a avant tout confiance en Allah. Je suis ce que je suis, c'est mon taqdir. Allah m'a donné ça et alhamdulillah. On a un problème? Et alors? Mais pas même couleur que vous. Mais pas l'argent comme vous. C'est ce qu'Allah m'a donné. Et je suis content. Qana. Qana'a. Qana'a, c'est une qualité ajib. Être satisfait de ce qu'Allah nous a donné. Qana'a, c'est l'aboutissement de iman bil qada et wal qadr. C'est être content, le cœur apaisé, ce qu'Allah m'a donné. Alhamdulillah. Je n'ai pas cherché plus, je suis satisfait. Même si, à mes yeux, c'est très peu. Alhamdulillah. Et quand je sens que ça fait un peu mal, c'est difficile, ou mes enfants, ils crient, ils disent, voilà, pourquoi on n'a pas. Mes enfants, regardent. Papa lit, Lina, il y en a beaucoup, il y a des... Regarde celui qui n'a rien du tout. Regarde ceux qui ont moins que nous. Ça fait partie des réactions du croyant. Toujours dans les bienfaits, on parle de matériel. Regardez ceux qui sont au-dessous de nous. Du coup, on peut faire choukr, on remercie Allah Azza wa Jal. Vous voyez, ça c'est un engrenage. Ça nous permet également de maîtriser la vie familiale. Ça nous permet de donner la bonne éducation à nos enfants. Un enfant qui voit ses parents avec le regard toujours attristé, parce qu'ils regardent les bienfaits des autres, ils n'ont pas, c'est un enfant qui va grandir en développant des complexes d'infériorité. Il va être amoindri, même s'il est intelligent, ces complexes d'infériorité vont le mettre en situation d'échec dès le départ. Il va se sentir inférieur aux autres. Vous voyez comment le iman bil qada et wal qadr, ça aide même un papa pour l'épanouissement de sa famille, de ses enfants. C'est quelque chose de magnifique. Celui qui arrive à développer ça, subhanallah, c'est vraiment, il atteint le plus haut degré de la foi, mais également, sur le plan psychologique, la personne va se renforcer. Et la dernière étape, c'est kullu shay makhluqun lillah. Bon, ça c'est un point très compliqué à expliquer, que tout ce qui se passe dans le dunya, c'est la création d'Allah. C'est-à-dire, Allah a créé ces événements. Même quand quelqu'un fait une bonne action, cette bonne action-là, Allah a créé cette situation. Ce qui veut dire que quand je fais une bonne action, je remercie Allah. Mais quand je fais un péché, c'est là après, il y a les questions compliquées qui arrivent. Quand je fais un péché, est-ce que je peux dire que c'est Allah qui a décidé? Allah t'a prédestiné parce qu'Allah, Rabbul Izzah, savait quelle allait être ta décision au carrefour du choix. Quand tu as un carrefour et que tu as un choix à faire, ben là, il y a le ilm d'Allah. Qu'est-ce que je décide? Le chemin droit ou le chemin gauche? J'ai décidé de prendre le mauvais chemin. Et puis, j'ai une jeune fille qui me fait des avances, pas moi, on va dire un jeune, et il se dit que ben, j'accepte pas. Il regarde les atouts offensifs, défensifs, en attaque, il n'y a rien à dire, en défense c'est bien, tout est parfait. Il n'y a personne qui m'empêche de faire ça. Il n'y a pas Fundi, il n'y a pas Bakoko, il n'y a pas grand-père, il n'y a personne. Tranquille. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Qui sera sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal? Un jeune qui reçoit les avances d'une belle et jeune femme, d'une grande lignée, une femme noble, très belle, très jeune. D'accord? Pardon? Ah non, 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 oui, ça c'est l'histoire du prophète. Barakallahu fik. Mais là, si c'était que Yusuf alayhi salam, on aurait été jaloux. Mais là, ça concerne n'importe quel membre de la Umma qui reçoit des avances d'une belle et jeune femme de haute lignée, comme Yusuf l'avait fait, et qui dit Inni akhafullah. J'ai la crainte d'Allah. Tellement Allah aime cette réaction de foi qu'Allah Rabbul Izza lui accordera une place sous l'ombre de son trône le jour de Qiyam. Donc, comment est arrivé à l'histoire de la femme là? J'ai perdu un peu les pédales. Oui, barakallahu fik. Lorsqu'on arrive à un carrefour, on reçoit les avances de cette personne. Si je sombre de le péché, de l'adultère, de le zina, est-ce que je peux dire taqdir, qaddar Allah, taqdir, abadan? C'est une épreuve. Il dit oui, mais si j'ai fait, c'est qu'Allah l'a prédestiné. Oui ou non? Non. Oui, c'est prédestiné, mais ce n'est pas Allah qui t'a donné, qui t'a orienté vers le péché. Quand tu as le choix, quand on parle du ilm d'Allah, Allah connaît le futur que toi tu ne connais pas encore ce que tu vas faire dans 10 minutes. Allah, il sait déjà quelle décision tu vas prendre. Ce n'est pas que tu vas tomber à droite ou à gauche. Est-ce que quelqu'un vous jette à la masjid le soir pour Isha? Ou est-ce que quelqu'un vous jette au plaza pour aller regarder le dernier Avengers? Non, c'est vous qui venez. Parce que vous avez l'intention et Allah a accepté votre intention, Allah vous a donné tawfiq de le faire. Mais il y a l'effort, iradatul insan. C'est là toute la cohérence, le libre arbitre, ce fameux libre arbitre, qui est quelque chose de réel et qu'on doit savoir conjuguer parfaitement avec la volonté d'Allah. Et ce sera chapeauté par ilmullah, al-kitaba, al-mashi'a et la création d'Allah. Et tout ça, ce sont des notions qui dépassent de loin l'entendement humain. Mais nous devons développer une conviction ferme là-dessus. Et plus on travaille, plus on creuse, on va intégrer la foi sur le destin, subhanallah, vous allez voir l'apaisement qu'il y aura dans les cœurs. Une même personne qui, à cause d'une épreuve, une personne, deux personnes à cause d'une même épreuve, un qui sombre, qui va peut-être même se suicider parce qu'il ne supportait pas l'épreuve, l'autre personne va atteindre le firdaus al-a'la min al-jannah par cette épreuve. Pourquoi? Parce qu'il était patient. Il s'en est remis à Allah. Il avait confiance en Allah. Et Allah l'a augmenté son daraja. Bon, ça me dit que, Ashadunna, pas ce hadith, que Allah, le hadith, le texte ne me revient pas, qu'il y a des gens qui sont tellement éprouvés par Allah Azza wa Jal, que jour après jour, les anges effacent les péchés de cette personne à cause des épreuves. Hatta yamshi ala al-ardi wa ma alayhi min khati'a. À un certain moment, cette personne, il marche sur la terre. Métaphore. C'est-à-dire, il vit, il n'y a pas un péché dans son livret de compte. Parce que chaque fois qu'il a eu des difficultés, il était patient. Et à chaque fois qu'il était patient, quand on est patient dans une épreuve, vous enlevez, Allah Rabbul Izzah ordonne aux anges d'effacer, d'enlever les péchés. Et le jour de Qiyam, à cette personne se présente devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, dans ce livret de péché, qu'est-ce qu'il y a? Wa ma alayhi min khati'a. Il n'y a aucun péché. N'est-ce pas là l'aboutissement? N'est-ce pas là la réussite? Même s'il y a eu des difficultés dans la vie, on se présente devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas un péché, il n'y a pas un compte, un hisab à rendre. Et c'est l'accès au Jannah. On ne demande pas des épreuves, hein. Attention, ça aussi, ça fait partie des points. On ne demande pas, oh Allah, accorde-moi des épreuves pour être patient. Non, non, non. On ne doit pas souhaiter les épreuves, mais s'il y a des épreuves, on se montre patient, on sait développer notre iman sur le destin, et avec ça, Inch'Allah, Azza wa Jal, chaque difficulté sera une source de rétribution. Et on conclut avec ce hadith qui est beau, qui nous montre que dans toutes les situations de la vie, du moment que notre cœur est relié avec Allah, on est gagnant. Bon, ça veut dire ajab, étonnant la situation du croyant. Lorsqu'il lui arrive une difficulté, sabara fakana khayrallah, il fait preuve de patience et il y aura un bien pour lui de cette patience. Récompense, source de récompense. Et lorsqu'Allah lui accorde maintenant un bienfait, shakara fakana khayrallah, il remercie Allah et à travers ce remerciement, cette preuve de gratitude, il y aura un bien pour lui, les récompenses. C'est-à-dire dans les deux cas de figure, si notre cœur est avec Allah Azza wa Jal, on est toujours récompensé. Qu'Allah nous accepte Mes chers frères, on a complété ce soir les 6 branches de la foi. Vous savez, il restait un petit point, mais il faut finir parce qu'on a la saison est terminée, la saison 2014. Ensuite, l'ange Jibril alayhi salam a demandé au prophète alayhi salat wa salam, qu'est-ce que l'ihsan ? Le prophète a expliqué que l'ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Et la deuxième étape, c'est si tu ne vois pas, parce que personne ne peut voir Allah, et la conviction qu'Allah azza wa jal te voit. Mais les savants disent en commentaire, la meilleure des situations, c'est adorer Allah avec espoir, plutôt que d'adorer Allah avec la crainte qu'Allah va me punir au cas où je fais des erreurs. Donc la première étape, c'est quand on fait l'adoration d'Allah, on doit avoir il faut développer un tel iman sur Allah azza wa jal, qu'on est persuadé qu'Allah nous observe à ce moment précis, qu'Allah nous voit à chaque instant. Ça, celui qui développe, qui arrive à ce degré-là, ben, le ihsan, c'est le plus haut degré de la foi. C'est qu'il sait qu'Allah l'observe à n'importe quel moment. Donc jamais il va faire preuve de takasul, de paresse par rapport aux bonnes œuvres, et jamais il ne mettrait même un pied ou il ne ferait un pas vers un péché. Ça, c'est le plus haut degré de la foi. Ensuite, l'ange Jibril alayhi salam a demandé au prophète alayhi salat wa salam, ça on ne développe pas parce qu'on a toute une thématique sur les signes de Qiyama le mardi. Akhbirni ani sa'a au prophète d'Allah, il n'a pas dit au prophète d'Allah, les gens ne savaient pas que c'était l'ange Jibril. Informe-moi sur le Qiyama, sur la fin du monde. Le prophète a dit, mal mas'oul wa anha bi'a'lam minas. Minasail, celui qui est questionné ne connaît pas plus que celui qui pose des questions. En commentaire, les ulama disent, on avait là les deux plus grandes créatures d'Allah, meilleur des anges, Jibril, alayhi salam, meilleur des hommes, Muhammad Mustafa Ali, afdal as-salat wa atamm at-taslim, lisez dur Allah salli wa sallim ala abdik wa rasulika Muhammad. Mais ces deux créatures exceptionnelles ne connaissaient pas quand aura lieu le Qiyama. Ça fait partie des choses qu'Allah Azza wa Jal seul connaît. Et ensuite, le Prophète m'a donné quelques alamat, quelques signes de Qiyama. Ce sont des points qu'on ne va pas forcément citer. Et ainsi, on va dire qu'on clôture le hadith concernant... il manquait la phrase de clôture. À la fin, le Prophète demande au Sahaba, Atadri mani sa'il, savez-vous qui était cet homme? Sahaba dit, Allahu wa Rasulu wa'alam, Allah et son prophète seul le savent. Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'était l'ange Jibril qui était venu vous enseigner votre dîn, votre religion. Et on rappelle ce qu'on avait dit au tout début, quand est-ce que ce hadith a eu lieu? À Mecca ou à Madina? Al-Madina. Le hadith a eu lieu à Madina. Le prophète était dans la Masjid Nabawi avec les Sahaba, Ridwanullah alayhi majma'in. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà 13 années de l'islam. Et là, ils sont à Madina. C'est-à-dire, Sahaba, on a les grands Sahaba qui sont présents, mais l'ange Jibril vient faire mudhakara, rappeler c'est quoi les bases de l'iman. Les savants disent qu'à n'importe quel moment de notre vie, quelle que soit notre ancienneté de la pratique de la religion, quelle que soit l'impression qu'on a de notre piété ou de l'ampleur de nos bonnes actions, ne jamais se dire que pour moi c'est bon. Moi ça va. Aou, occupe à où, fais un cas avec où, mais moi ça va. Alhamdulillah. Abadan. Personne ne peut se reposer sur son iman et sur ses a'mal. On a toujours besoin d'apprendre. Ça c'est ilm. L'ange Jibril est venu enseigner les sahaba, pourtant qui étaient les sahaba, et il n'était pas venu dire des choses compliquées, hein. C'était pas les règles de l'héritage, miras, c'est comme ça. Non, c'était des choses basiques, des choses qu'on enseigne aux enfants. Il n'y a pas une personne de l'assemblée ici qui ne connaît pas les 5 piliers de l'islam, ni les 6 branches de la foi, tout le monde connaît. Mais Allah Rabbul Izzah sait que c'était profitable pour tous les sahaba, et c'est là un enseignement pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. On fait le niya, là on a juste passé en revue les branches de la foi, faire l'intention d'essayer d'apprendre. Il y a des livres qui ont été écrits, qui ont été traduits en français, très bonne traduction. Je vous conseille la compilation de Cheikh Suleyman Al-Ashqar, excellente compilation sur croire en Allah, croire aux anges, croire aux livres. Si je ne me trompe pas, tout a été traduit en différents volumes. Le niveau linguistique est un peu élevé, mais c'est bien. C'est quelque chose de très complet avec Coran et Hadith à l'appui. On a besoin d'apprendre notre religion. Ne jamais penser qu'on connaît tout. Là, Wallah, on ne connaît rien. On connaît juste nos salats, tahara, saum, bas. On a besoin d'apprendre notre dîn. Plus on développera les branches de la foi, plus iman billah va augmenter et plus on aura la clairvoyance concernant l'orientation qu'on doit donner à notre vie pour la préparation de l'au-delà. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accepte, nous donne la possibilité de développer ces 6 branches de la foi et que cela entre dans nos cœurs, dans notre tawfiq de mettre en pratique et de propager à nos mères et nos soeurs, Inch'Allah. Donc après les vacances, on va continuer avec un autre hadith. Wa tawfiq illa billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.